France Musique. Disque de légende, Lionel Esparza, France Musique.
Et notre légende aujourd'hui, c'est Myung-Woon Chung dans le Stabat Mater de Rossini.
Thank you.
L'ouverture de Stabat Mater de Rossini dans la version Myung Woon Chung en 1995. La question quand un compositeur d'opéra à forte personnalité comme Rossini se lance dans l'écriture d'une œuvre sacrée, c'est ce qui va pas y transporter naturellement les manières, le langage, la vocalité qui est celle de l'art lyrique, de manière générale, un esprit de scène dont on peut parfois se demander si ça a vraiment sa place dans une œuvre religieuse. Oui, c'est un modèle un peu bancal. Mais c'est un hasard, c'est sur ce modèle bancal que les plus grandes pièces de musique sacrée ont vu le jour. On pense bien sûr au Requiem de Verdi, qui est un vrai opéra dans la chapelle, ou donc ce Stabat Mater de Rossini, créé à Paris en 1842, après être resté, c'est assez unique dans la carrière du compositeur, après être resté, disais-je, plus de 10 ans dans l'atelier de Rossini. On sait qu'il était plutôt du genre rapide, pas cette fois, parce qu'il y a eu de la maladie, une première version pas entièrement de sa main, des problèmes de droit. Il y eut même au moment de la création à Paris un certain Richard Wagner, qui était alors tout jeune et qui était en visite et puis qui s'est pris la main lui-même pour dire que non, décidément, faire de l'argent avec du sacré, quand on a tellement fait gigoter les foules avec de l'opéra quasi bouffe, ça n'était pas bien. Bref, on laisse ces problèmes de côté. On va surtout écouter une cavatine pour tout apaiser. La cavatine du Stabat Mater de Rossini, enregistrée en 1995 par Myung-Woon Chung, avec la voix de Cecilia Bartoli, qui n'avait même pas 30 ans. Elle avait débuté sa carrière en mezzo. Ici, on l'a retrouvée en soprano 2. C'était l'une des curiosités de cet enregistrement. Myung-Woon Chung avait, il faut le dire, cette année-là, réuni des forces luxueuses pour ce Stabat Mater. Le Philharmonique de Vienne, Lubor Gunasova en première soprano, quelques autres chanteurs pas trop mal, le chœur de la Staatsoper de Vienne aussi. Fallait bien tout ça pour emporter la double fugue finale vers des sommets de dramatisme.
Thank you.
chœur de l'Opéra d'État de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Myung Woon-chung à la baguette dans le Stabat Mater de Rossini, l'amène finale en 1995 pour Deutsche Grammophon. C'était notre disque de légende, à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Vous allez dire qu'on fait pas dans la folle gaieté ce jeudi, mais on va poursuivre avec une autre pièce funèbre. Il s'agit d'un extrait de la symphonie Azrael, l'opus 27 de Józef Suk, une œuvre composée en 1906 après la mort de son beau-père, Antonín Dvořák, et après la mort de sa propre femme, Otiliste, une période absolument affreuse pour Józef Suk. Il a dit lui-même qu'il n'aurait pas dû se remettre de ses premières années du XXe siècle, simplement. Il a eu cette idée de cette symphonie et de son sous-titre, Azrael, l'ange de la mort, présent parmi nous, tout le temps, partout, qui nous accompagne d'une certaine manière et auquel il donne des visages les plus divers. Un extrait de la deuxième symphonie de Josef Suk, Azrael, c'était Jerzy Belorlavec avec l'orchestre philharmonique tchèque. Je crois qu'on a déjà écouté le disque qui suit dans cette émission, ça ne nous empêche pas d'y revenir, il est vraiment très très bien. Il est signé de l'ensemble Arcangelo, un ensemble à effectif et même à personnel variable. Au cœur, il y a le claviériste Jonathan Cohen, qu'il a fondé il y a une bonne dizaine d'années. En fait, il réunit autour de lui les musiciens avec lesquels il a envie de travailler pour tel ou tel répertoire. Sur ce disque-là, c'est la musique instrumentale de Dietrich Buxtehude, un recueil de 1696, où l'on sent à la fois que Buxtehude est un compositeur de musique pour orgue, qu'il est très marqué par l'école du Nord, celle de Hambourg, mais aussi qu'il a eu une oreille vers le Sud et les sonates de Corelli. Thank you. La première sonate en trio de l'opus 2 de Dietrich Buxtehude, c'était Jonathan Cohen et son ensemble Arcangelo.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Et on va refermer cette émission grâce au piano de Florent Schmitt. Extrait du cycle pour piano de Florent Schmitt sur 5 notes par le duo Invencia, une sorte de friandise pour ce qui va suivre, la tragédie de Salomé, du même Florent Schmitt, drame muet composé en 1907. À l'origine, il y avait la première représentation à Paris au Théâtre du Châtelet de la Salomé de Richard Strauss qui avait littéralement renversé tout le monde. Robert Dumière, qui était alors directeur du Théâtre des Arts, avait décidé de monter la chose sous forme de spectacle chorégraphique, librement inspiré du personnage biblique de Salomé, et cette fois écrit pour une danseuse, Loïc Fuller. Il demande à Florent Schmitt s'il veut bien écrire la musique, celui-ci accepte. Grand succès à la fin de cette année 1907, mais c'est la suite symphonique 4 années après qui fera véritablement connaître cette partition et fascinera aussi Igor Stravinsky. On raconte que celui-ci s'en inspira pour quelques passages du Sacre. Voici la deuxième partie de cette tragédie de Salomé de Florent Schmitt.
Thank you.
Les enchantements sur la mer, la danse des éclairs et la danse de l'effroi, extrait de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt, Yannick Nézet-Séguin à la tête de l'orchestre métropolitain.
À réécouter sur francemusique.fr.